Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. France Inter plus de Tribunal des flagrants délires, l'émission satirique sous forme de procès présentée par le président du tribunal Claude Villers, surnommé par des proches Massif Central. Le ministère public, c'était le procureur de la République des proches françaises et l'avocat commis d'office, Louis Rego, l'avocat le plus bad inter, qui alternait les digressions et les thématiques loufoques comme des parodies de jeux radiophoniques ou des fiches de bricolage complètement improbables. Ce soir, Josiane Balasko. On est le 26 octobre 1982 et Josiane est inculpée d'association de malfaiteurs, de trafic d'armes, de sabotage et de tromperie sur la marchandise. Ses témoins appelés à la barre seront le chanteur David McNeil et le réalisateur Jean-Marie Poiré. Alors, plus de justice, soirée flagrant délire sur France Inter.
Mesdames, messieurs, la cour! L'avocat de la défense, Louis Rego. Le procureur général de la République, Pierre Desproges. Le président, Claude Villers.
Nous sommes le tribunal.
Est ouverte, huissier appelé.
Le ministère public contre Josiane Balasko.
Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms et qualités.
Josiane Balasko, artiste.
Josiane Balasko, vous êtes inculpée d'association de malfaiteurs. En effet, l'équipe du Splendide terrorise le monde du spectacle depuis maintenant plusieurs années. De trafic d'armes et de sabotage, car vous avez changé les canons de la beauté. Et vous êtes également accusé de tromperie sur la marchandise. En effet, vous qui faites du café-théâtre, vous savez fort bien que l'on n'y sert pas de café, ni de théâtre non plus d'ailleurs. Josiane Balasko, vous pouvez vous asseoir.
Merci.
Vous reconnaissez les faits? Vous plaidez coupable ou non?
Oh oui, coupable.
Attendez, Josiane.
Josiane Balasko, vous êtes comédienne depuis combien d'années maintenant?
Oh, une dizaine d'années.
Une dizaine d'années, oui. Et vous vous êtes associée avec vos complices en quelle année?
Oh, ça devait être en 76, à la suite d'un chantage que j'étais obligée de m'associer avec eux.
Vous venez d'une famille très riche, je crois.
Oui. Oui, j'ai changé mon nom d'ailleurs.
Oui. Vous vous appelez comment normalement?
Villemorin.
Villemorin. Oui. Prenez-en de la graine, monsieur. Alors, quand je parlais d'association de malfaiteurs, je lis dans Elle, le journal Elle, du 11 janvier 1982.
Faut le faire, lire dans Elle.
Oui.
C'est un exploit.
Vous savez, il y a des fois des vieux fonds. Hein. Lire dans Elle. Je vois comme titre Le gang du rire.
Nous, on rit beaucoup avec les grossièretés.
Oui.
Et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui rient avec les grossièretés, mais qui n'osaient pas avant, par peur un petit peu, ça...
D'après vous, ça tient à quoi, le fait qu'aujourd'hui, on ose rire de ces choses-là?
Peut-être au changement de politique. Je sais pas.
Je sais pas.
Mais vous savez que le procureur des proches, par exemple, a été grossier bien avant.
Oui.
Oui. Mais c'est un nouveau comique aussi.
J'ai dit caquette dès 79. À l'antenne.
Et on ne l'a pas coupé, si je puis dire.
Pas coupé.
Je lis également dans un autre journal qui a pour titre Le Point, du 28 décembre 1981, donc effectivement après le changement politique, Splendide, de Point, la PME du rire, la petite et moyenne entreprise du rire.
Oui, parce qu'on est moins de 10.
Donc c'est une
donc
PME.
Donc ça fait partie des petites et moyennes entreprises. Après c'est...
Donc il n'y a pas de comité d'entreprise?
Non. Non, on n'a pas de délégués syndicaux, rien.
Rien du tout.
C'est pour ça qu'on évite de s'agrandir, parce que sinon il faut...
Oui, après évidemment. Ouais. Mais la PME du rire, ça veut dire que vous vous trouvez dans la situation d'un industriel, enfin d'un petit industriel, un petit commerçant.
Un commerçant, oui, on a nos murs, notre bail, mm-hmm. si vous voulez. On a nos spectacles qui seraient comme des consommations, sauf que c'est du spectacle. Mmh. Et on fait payer les gens, on a un comptable en tout, enfin bref, on paye nos impôts, on s'emploie nous-mêmes.
À la question du juge d'instruction, votre qualité préférée chez un homme, vous avez répondu « le respect des autres ». C'est plus difficile à trouver chez un homme que chez une femme.
Oui.
Pourquoi ?
Ben, la femme, elle est habituée à respecter l'homme, si vous voyez.
Mais, pas la mienne.
À coup de baffe, à coup de loi, de tout ça.
Tandis
que les hommes,
le
ils sont habitués à rien respecter. Pourquoi dit-on une respectueuse et pas un respectueux ? C'est un terme à appliquer uniquement à l'élément féminin.
Si vous dites que les femmes respectent plus le genre humain, ça veut dire par exemple que Mme Thatcher a plus de respect pour le genre humain que...
Il paraît que dans le privé, c'est une femme charmante.
Oui. Oui. Il paraît que Hitler adorait les chiens aussi. Oui.
Qu'elle reçoit.
Surtout allemand.
Vous avez eu envie de jouer des rôles, disons, de vamp et de...
Ben, j'ai eu envie, mais j'ai dû abandonner quand même assez vite. Comme on a des choses que beaucoup de gens n'ont pas, en plus, je ne parle pas seulement des kilos. Mm-hmm. Je parle pas pour seulement, ouais. Mais on se dit, par exemple, on peut faire rire. Jeanne Tierney ne faisait pas rire. Je pense Jeanne Tierney, c'est vrai. Bon, elle était très belle. Je me dis, bon, allons-y dans le fait de faire rire. C'est quand même un peu plus rare.
Par exemple, être dans les bras d'Alain Delon, ça...
Non.
Moi, j'aurais aimé.
Mais non, non, j'ai pas de... Pas...
Être dans les bras de...
Mireille d'Arc.
Mais non.
Je n'arrive pas à trouver qui...
Il n'y a aucun jeune premier actuellement.
Un mec ou comme De Niro ou des latino-américains. Je suis assez branchée sur les petits brins.
Ouais.
Vieille voilà. Frippée qui répond. Il se prend pour un séducteur.
Ils viennent jusque dans nos bras. Ouais. Soulever nos femmes et nos compagnes.
Ça, c'est vrai. Ça.
Non, vraiment aucun.
Bah non,
même pas
dit...
de Funès ou... Bah, c'est un petit brin.
Oui, enfin, il n'a plus de cheveux tellement maintenant.
Vous exagérez, ah bon. Josiane, il y a bien.
S'il bouge autant au lit que dans les gendarmeries, ça n'a pas de truc.
C'est vrai, je n'avais pas envisagé ce côté-là du problème.
Non, la mouvance de l'abbé Souris, par exemple.
À la question du juge d'instruction, quels sont les héros de romans que vous préférez ? Vous avez répondu Jeannère et les Claudines de Colette. Ce sont, enfin tout au moins pour les Claudines de Colette, ce sont des héroïnes assez licencieuses.
Oui, délurées.
Délurées.
Délurée, oui.
Et pourtant, les films que vous tournez n'ont rien à voir avec Jeannère.
Non, il y avait Claudine d'ailleurs. C'est très...
Le Père Noël est une ordure, par exemple, qui vient de sortir. Vous pensez que quelqu'un qui aime Jeannère va aimer aller voir Le Père Noël est une ordure ?
Ben, moi, par exemple, j'ai joué dans Le Père Noël et j'ai bien aimé Jeannère, donc il y a peut-être des gens dans mon cas. Mm-hmm. Mais ça n'a pas grand rapport, disons. Peut-être un petit peu le côté anglais, strict, digne, peut-être.
Oui. Oui,
ça. Justement, à propos d'anglais, la question, quel est votre personnage historique favori ? Vous avez répondu Jeanne d'Arc. Vous pouvez les donner
on
la
cour ? On a dit d'abord qu'elle avait été la fille naturelle d'Isabeau de Bavière et d'un prince d'Orléans. On a dit, Voltaire a dit que c'était une fille de ferme. On a même dit que c'était un homme. Je veux dire, il y a eu au moins 5 ou 6 hypothèses. Je ne parle pas de celle de l'Église qui a été forgée de toutes pièces au XIXe siècle pour, si vous voulez, redonner un souffle.
Oui.
Au patriotisme français.
Pour raviver la flamme.
Voilà, pour raviver la flamme.
Oui, effectivement, oui.
Et il y a beaucoup d'hypothèses sur Jeanne d'Arc.
Mais qu'est-ce qui vous intéresse chez Jeanne d'Arc ? Le fait qu'elle ait pu être un homme ?
Non, pas du tout. Non, mais c'est une des premières bonnes femmes dont on ait vraiment parlé comme ça.
Et vous pensez qu'une femme, on doit la brûler pour en parler ?
Eh bien, si on prend l'exemple de Jeanne d'Arc, c'est malheureusement vrai. Peut-être qu'elle n'a pas été brûlée, remarquez.
Peut-être que c'était un homme.
Peut-être qu'elle n'a pas été brûlée. Parce qu'on n'a même pas retrouvé les minutes du procès. Les minutes du procès de Jeanne d'Arc, ça a été des copies.
Je ne parle pas du procès, je parle de l'existence terrestre de cette jeune femme.
On en a comme seule preuve les minutes du procès.
Bon, dans 50 ans, il y a des gens qui diront que De Gaulle, c'est une jeune fille, mais ça reste. Il suffit de lire.
Peut-être que c'était, oui.
Moi, je l'ai tenue dans mes bras, crois-moi.
Quand tu étais jeune premier ?
Oui.
Ça m'étonne que vous vouliez interpréter des rôles d'héroïne, disons, un peu tragiques quand même, parce que c'est pas rigolo tous les jours, Jeanne d'Arc. Alors qu'on dit de vous, par exemple, là j'ai sous les yeux un extrait du Nouveau Journal, on dit Josiane Balasko, 2 points, le gros rire qui tâche. Mais ça veut dire peut-être que le rire que vous provoquez est un rire vulgaire ?
Gras. Les gens pensent que c'est un rire gras, un rire populaire, un rire bas.
Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent « Ah, ça c'est vulgaire ».
Ben, je les regarde.
Et
je me marre après, souvent. Parce que la vulgarité, des gens, moi je connais des gens très très distingués qui sont vulgaires à force d'être chic et de parler comme ça. Oui,
mmh. Oui, mais ils pètent sans bruit.
Mais ça sent deux fois plus, je m'excuse. Et ça y est, c'est reparti dans les concertés, c'était. Voilà.
À propos de Père Noël est une ordure, il y a eu une interdiction de la part de la RATP, les transports en commun.
La SNCF aussi,
les deux.
Oui.
De mettre des affiches dans les gares, dans les stations et dans les trains. Que pensez-vous de cette mesure d'interdiction?
Je crois qu'ils ont voulu protéger, disons, cette image d'Épinal, du Père Noël, qui est cher à tous les bambins, enfin, à ce qu'ils, du moins c'est ce qu'ils pensent. Mmh. Donc, et les enfants qui ont été voir le film n'en sont pas sortis avec une image terrifiante du Père Noël, puisque c'est pas de toute façon le vrai Père Noël dont on parle dans le film, puisque c'est cet ignoble Junio.
Monsieur le procureur, avez-vous une question à poser à l'accusé?
J'ai été frappé par le...
Par qui?
Par moi, déjà.
Par la personnalité morbide de l'accusé, qui a répondu très très souvent... qu'elle était complètement affolée par l'idée de la mort. Alors comme ça, la chose qui me fait plus rire au monde, c'est la mort, j'aurais voulu que vous développiez un petit peu.
Hein? Faites-moi rire, faites-moi rire. Non, mais
qu'est-ce que vous craignez dans la mort?
C'est injuste.
C'est injuste.
Je ne sais plus, il y a un titre de film, Pourquoi moi?
Oui, c'est ça qui est dégueulasse.
Hein. Pourquoi moi?
J'ai un conseil à vous donner, c'est suicidez-vous, c'est la seule façon de mourir vivant.
C'est vrai.
Nous allons procéder à l'audition des témoins. Huissier, voulez-vous faire entrer le premier, je vous prie?
Nous appelons à la barre David McNeil.
Vos noms, prénoms, âge.
J'ai failli partir là.
Il a failli partir.
David McNeil, 36 ans, 3 dans le nez à Jésus, profession témoin professionnel.
Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte.
Au point où j'en suis,
droite,
oui. Oui, je le jure. Et puis ça a commencé à devenir un tantinet vulgaire. Vous connaissez mon éducation britannique.
Oui. Qu'est-ce que vous appelez la vulgarité?
On recommence, passez la bande.
Non, mais vous. Non, mais ça diffère
non,
avec chacun.
Non, on parle maintenant de l'accusé. Oui. Il faut qu'on le rentre dans le chou. On ne va pas rentrer dans le chou de la vulgarité.
Non, mais dites ce qui vous choque, vous.
Pour un Britannique, tout ce qui dépasse la ceinture vers le bas.
Ah, vers le bas, pas vers le haut, non.
Pas les nichons, alors, par exemple.
Non.
Et vous avez été choqué par ce qui s'est dit dans ce tribunal?
Quelquefois.
Il y a des proches qui ont prononcé le mot kékette.
Ah, pas méchamment.
Il ne peut pas s'en empêcher.
Ça,
tous les jours.
Alors donc, vous avez entendu ce qui a été reproché à Josiane Balasko?
Vaguement, mais il y a beaucoup plus de reproches à leur faire.
Ah bon?
Ouais.
Vous pouvez
non,
apporter...
Ça sert à rien, je veux dire. Je suis témoin, je pense que mon témoin... Vous savez que je sers la justice depuis pas mal de temps. Le comique est essentiellement masculin. Je veux dire, vous savez, les gendarmes, la 5e compagnie, enfin tout ce qui provoque, je veux dire, chez nos bambins, une saine réaction. Je veux dire, on égratigne un peu l'uniforme, mais les valeurs restent sûres. Et depuis quelque temps, sous couvert de café-théâtre dont vous parliez, mais moi j'ai bu dans un café-théâtre. J'étais assis sur un parpaing. Dans une salle assez restreinte, et on m'a servi dans un gobelet en plastique une sangria dont la moitié a valsé sur mon costume. J'ai bu dans un café-théâtre. Ces dames, c'est-à-dire, bon, les Jeanne, les Sylvie Joly, Marianne Sergent et l'accusé, Isabelle Huppert, d'autres.
Isabelle Huppert.
Personne ne rime. Bravo. Bon, c'est un effet.
Ah, c'est un métier, hein.
Sont en train de nous bouffer le boulot. Il n'y a plus que des femmes qui font des films comiques. Regardez. Tous les journaux féminins montrent ces vêtements que vous avez. Vous êtes venu en pantalon aujourd'hui, bravo. J'ai vu dans Elle toute une garde-robe fabuleuse.
Ah oui?
Alors que nous portons le même truc depuis je ne sais pas combien de temps.
Ah bon,
on est fichu. Ou alors il faut faire la cage aux folles.
Mais je l'ai faite.
Dans quel rôle?
Du PD, le PD.
Mais, Monsieur le Président,
oui,
vous n'avez plus le droit de couper les têtes, et je sais que ça vous tient à cœur.
Ben oui.
Vous avez peut-être le droit de couper les jambes. Et si on coupait une jambe à Marianne Balasko, et qu'on l'oblige, je veux dire, ça c'est une idée, à jouer le rôle de Sarah Bernard dans L'Aiglon jusqu'à la fin de sa vie, je serais vraiment ravi. C'est syndical.
Vous pensez que les femmes ne doivent pas faire rire?
Écoutez, on peut rire de l'homme, parce que l'homme, bon, mais je n'aime pas qu'on rie de l'image de ma mère, ma sœur, ma femme.
Ah, il est
ceci dit, il y a une époque où vous aimiez Vous auriez voulu être Jeanne d'Arc à une époque où les comédiennes étaient brûlées.
Pour demain.
Que ça reviendra, l'histoire se répète, dit-on.
Mais pourquoi demande-t-on ? Vous avez cité Sarah Bernhardt tout à l'heure. Effectivement, elle a joué l'aiglon. Pourquoi demande-t-on souvent à
l'aiglon,
les femmes ?
L'aiglon, elle a joué.
L'aiglon, imbécile.
Oui, parce que ça me semblait d'une vulgarité.
Écoutez, président, je pense que c'est une pièce qui est tellement ringarde qu'il y avait que des femmes pour la jouer. Je suis dit, je suis pas misogyne du tout. Je suis payé pour dire des conneries, c'est tout.
Il craque.
Vous avez écrit certaines chansons que vous avez chantées, bien sûr, et puis dernièrement, monsieur Yves Montand vous a chanté aussi.
Pas en robe, en pantalon.
Oui, non, évidemment. Ouais.
Non, il a chanté une chanson, oui, Hollywood, qui était une excellente chanson, d'ailleurs, que des proches reprennent quelquefois.
Oui, avec moins de succès.
Et moi aussi.
Donc moi, je fais pas chier avec les feuilles mortes depuis 30 berges.
Mais remarque, tu nous emmerdes autant avec la Pologne, alors fait.
Moins que lui.
Et vous aimez bien qu'on vous chante comme ça ?
Ah, écoutez, c'est mieux, parce que si vous pouvez simplement écrire des chansons, rester chez vous pendant que les autres ont le trac et s'emmerdent en camion, c'est l'idéal.
Mais David McNeil, tout à l'heure on a parlé des jeunes premiers de cinéma, des jeunes premières. Vous pensez effectivement qu'après le film Les Hommes Préfèrent les Grosses, les messieurs et les dames... Oui, parce que vous êtes dedans, je sais, Maître Rigaud.
Non.
Est-ce que vous pensez véritablement que l'attitude des uns et par rapport aux autres a pu changer ? Est-ce que vous pensez maintenant que les hommes ont moins honte, par exemple, de sortir avec quelqu'un d'assez enveloppé ?
Vous essayez de vous placer, président.
Comme femme, pas tellement. Mais c'est pas parce que j'ai une robe qu'il faut croire des choses. Mais je parlais là-dedans.
Non, je pense sincèrement qu'il y a des bons, ce qu'on appelle les canons, soi-disant, de la beauté qui paraissent dans certains magazines et qui ne font plus rêver, je pense. La preuve, c'est qu'il y a une femme qui vit avec moi depuis 17 ans.
Oui, et alors ?
Ben, j'ai une preuve.
Mais pourquoi elle est pas d'après les canons de la beauté, votre dame ?
D'après le fait de vivre avec un type qui mesure 60 cm de plus qu'elle, par exemple.
Vous faites un
Imaginez-moi dansant avec ma femme qui arrive ici, ça ne serait pas fait il y a une centaine d'années.
Ce qui est bien, c'est qu'elle peut rester tout le temps debout.
Ben non, si.
C'est toi, ça.
Péchin est impossible c'est... aujourd'hui.
C'est de Péchin.
Il y a des séducteurs fabuleux, je veux dire, dans l'histoire, par exemple Napoléon, qui était des nabots épouvantables. Mmh. Talleyrand était d'une laideur époustouflante, mais il a été un grand séducteur.
Vous faites un complexe d'être grand ?
Écoutez, moi je ne sais pas, en France je ne fais pas de complexe, mais quelquefois dans le métro à Lisbonne...
Il n'y a pas de métro à Lisbonne.
Je sais, il y a des tramways. Mais c'est pareil, on est accrochés comme ça, et tout le monde vous arrive à peu près là. Et en portugais, ça donne des choses
contente.
Comme push, moi, c'est sûr, qui veut dire il fait bon là-haut, à peu près, c'est la traduction.
Votre femme, d'une grande conne là-bas.
Par contre, si vous allez à Dubrovnik, ou à, non, je veux dire à New York, par exemple.
Ça veut
vous,
rien dire, être
vous,
grand
vous
et blond.
Regardez les gens d'en bas.
Être grand et blond et avoir les yeux bleus, ça fait nazi, je trouve, moi.
Monsieur le procureur, avez-vous une question à poser au témoin ?
Je vais demander au témoin s'il n'a pas été très choqué par la mise en doute de l'existence de Jeanne d'Arc qui a fait de l'accusé, alors que je sais que le témoin est très attaché à plusieurs saintes françaises de souche.
Soubirou.
Comme Bernadette qui était Soubirou.
Bernadette Soubirou a existé.
Oui, que vous avez beaucoup aimé. Oui,
absolument.
Elle lui arrivait là.
Bah, Birou était comme ça, elle était fou.
Et Soubirou, c'est...
Ça ne le fait pas dire.
Et voilà, ça faisait longtemps.
Non, en tant que descendant d'une famille britannique, le fait que l'on mette en doute, comme disait monsieur le procureur, l'existence de Jeanne d'Arc ne remet-elle pas en cause l'existence même de la Grande-Bretagne ?
C'est-à-dire que depuis qu'on met en cause l'existence de Jeanne d'Arc, on pourra conduire une voiture anglaise dans Paris sans se faire engueuler à tous les feux rouges.
Vous conduisez une voiture anglaise ?
J'en ai eu, pour éviter les PV.
La Cour remercie le témoin David McNeil et se réserve le droit de le rappeler à la barre. Témoin suivant, huissier.
Nous appelons à la barre Jean-Marie Poiret.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Jean-Marie Poiret, metteur en scène de films à scandale.
Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte.
Je ne peux pas jurer de choses que je ne tienne pas.
Ah bon. Vous avez dit... Film à scandale, pourquoi?
Parce que j'écoutais ce que vous disiez, vous n'avez pas arrêté d'attaquer Les Hommes préfèrent les grosses et Le Père Noël est une ordure, comme des films scandaleux, et mon ami Balasco, je suis très peiné du ton qu'a pris cette audience.
Merci.
Et vous...
Non, parce qu'on attaque cette femme, cette pauvre femme, comme si c'était une femme laide. On dit, vous faites des rôles, vous faites du cinéma, et moi, Josiane, je trouve très jolie.
Oui.
Et donc, je suis très peiné qu'on la traite de femme laide. Parce que quand elle fait Les Hommes préfèrent les grosses, elle prend des kilos, elle mange énormément, elle s'en les dit, elle
c'est
met
au frais de la production ou...
Ça est au frais de la production, c'est un film assez cher à cause de ça, parce qu'elle mange beaucoup. Quand elle fait Le Père Noël est une ordure, elle se transforme, elle s'en les dit, elle se transforme en Simone Veil.
Oui, la cour appréciera, oui. Et Madame Veil aussi. Bon,
et je trouve que dans la vie, elle est charmante. Et parce que les gens qui ne voient pas Josiane, qui l'entendent, on ne voit pas vraiment à la radio.
Pas tellement.
On a l'impression qu'on parle d'un laideron.
Mais Jean-Marie Poiret, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez fait quand même maintenant pas mal de films. Et
vous voulez dire
autres...
mon âge ?
Non. Non, je voulais dire que vous êtes le metteur en scène d'un certain cinéma, puisque je lis dans les journaux que vous êtes le metteur en scène du Nouveau Rire. Et je vois effectivement que vous avez participé au tournage de On a retrouvé la 7e compagnie.
Oui, c'est du Nouveau Rire, ça.
Oui, justement, je voulais vous demander si...
C'est-à-dire que je ne vois pas vraiment la différence entre l'ancien et le Nouveau Rire.
Ben moi non plus, c'est pourquoi je vous pose la
D'ailleurs,
question.
D'ailleurs, je vois rarement la différence entre l'ancien et le nouveau, que ce soit en politique, dans la vie. Je trouve que c'est toujours pareil. Je ne sais pas si vous remarquez que les gens se ressemblent d'année en année.
Ah bon, vous trouvez que, par exemple, le travail qu'a pu faire le Splendide n'apportait rien du tout, alors, au Rire ?
Je dis pas qu'il apporte rien. Il y a des gens qui sont mourants, on les remplace par des gens plus jeunes. Quand on sera mourant, on nous remplacera par des gens plus jeunes. C'est la vie qui continue, mais c'est toujours pareil, c'est toujours le même rire. Le problème, c'est que les gens, quand ils voient... Nous, on décrit des gens vulgaires.
Ah, merci pour eux.
Oui, non, mais c'est même dans Les Hommes préfèrent les grosses, par exemple, pour Rego, qui est un avocat distingué.
Je vous ai laissé parler tout à l'heure.
Maître Rego.
Mais ça ne veut pas dire que le metteur en scène est vulgaire. Le metteur en scène est un type distingué qui filme des gens vulgaires. Et alors, les critiques qui sont vulgaires attaquent le metteur en scène distingué en disant il a fait un film vulgaire.
Il a fait un film sur nous.
En fait, le critique est un con.
Mais vulgaire ou pas?
Et souvent assez vulgaire.
Oui. Alors, vous pouvez nous donner peut-être...
Des noms ?
Non, ça, si vous voulez, oui. J'ai rien contre.
Non, parce qu'il y a des critiques, par exemple, sur Le Père Noël est une ordure, qui ont dit du film des horreurs, et on était obligés... C'était pas la réalité. La réalité, c'est qu'ils sont venus voir dans une projection privée, par exemple, le film, et certains critiques sentaient très fort des pieds, on a été obligés de les faire sortir, parce qu'ils incommodaient les critiques qui ont aimé le film, et donc ces gens-là se sont vengés en disant que c'était pas drôle.
Monsieur le procureur, avez-vous une question à poser aux témoins ?
Oui, je voudrais revenir sur cette notion d'ancien et nouveau rire. Est-ce que vous ne pensez pas que l'ancien rire était beaucoup plus innocent que le rire actuel ? C'est-à-dire que le rire actuel, qui est le rire du Splendide, ou de Jean-Yann, ou de Coluche, ou de Jacques Lang, mais lui, il ne fait pas exprès. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est moins innocent ? C'est ça, je veux dire, avant, on riait des belles-mères au placard, des cocus et des choses comme ça. Maintenant, il y a
peut-être aussi parce que la vie était plus innocente. Alors,
vous croyez qu'on rigolait en 14 dans les tranchées ?
On ne rigolait
pas, qu'il s'en disait.
Non, je pense qu'il devait rire aussi en 14. Attends, ils avaient des gaz hilarants, par exemple.
Oui, non, ça aide. Ouais.
Une autre question ?
Non, comme celle-là n'est pas intéressante, apparemment. Je pense que pas...
Maître Rego, vous avez une question à poser au témoin ?
Oui, mais j'hésite.
Mais non, allez-y, n'ayez pas peur.
Vous trouvez que l'ensemble des critiques sur Le Père Noël est une ordure ? C'est bien ou pas bien ?
Non, l'ensemble des critiques est très, très bonne. Le film est très drôle. Je dis ça, je fais pas de publicité là en ce moment. Moi, tout à l'heure, Balasco mettait en doute Jeanne d'Arc. Moi, je mets en doute l'existence du Père Noël, je le dis franchement. Mais actuellement, on est en train de parler de Balasco et on ne peut pas mettre en doute l'existence du talent de Balasco.
Mais vous vous moquez dans ce film de gens charitables.
Je trouve qu'il y a un côté voyeur un petit peu, parce que ces gens-là, l'idée c'est qu'ils ne veulent pas qu'on vienne les voir pour leur raconter ces malheurs. Donc en fait, ce sont des gens un petit peu voyeurs qui écoutent au téléphone et qui compatissent en se gobergeant un petit peu du malheur d'autrui. Je trouve qu'on vit en plus dans une société qui est malade de culpabilité. Et je trouve qu'il y avait un côté très décapant et très agréable dans le sujet qu'on m'a proposé, donc qu'on a fait au cinéma, parce qu'on pouvait enfin se moquer de tabous. C'est-à-dire, bon, du Père Noël qui est un tabou suprême, ça je ne me rendais pas compte à quel point, mais le Père Noël c'est plus grave que Dieu.
Ah bon ?
Oui, vraiment, il y a sur le Père Noël, il y a quand même des gens, quand on tournait avec Junio dans la rue, il y a quand même une dame, il fumait une cigarette, le pauvre Junio, entre deux prises, assis sur une caisse. Il avait donc retiré sa perruque, et il parlait avec moi, il y a une dame qui arrive avec un parapluie, elle lui en colle plein la tronche, tac, tac, tac. Elle lui dit, remettez immédiatement ça, parce que vous faites perdre leurs illusions à mes enfants.
La Cour remercie le témoin Jean-Marie Poiret et rappelle donc son film « Le Père Noël est une ordure » est encore actuellement sur les écrans que l'on peut
toutes les bonnes salles.
Voilà, que l'on peut protester et on peut continuer de protester, voilà. Bien sûr en écrivant directement au Père Noël. Vous pouvez aller vous asseoir dans le prétoire. Merci. Le procureur va maintenant requérir contre l'inculpé, et c'est la voix de la société qui s'exprime par son organe puissant.
Il ne ferait jamais. J'arrive pas à m'y faire, le coup de la voix.
Puissant. Puissant, bon.
Puissant en tant que...
Le procureur général de la République des Proches Françaises.
Merci. Française, Français, Belge, Monsieur le Massif Central, Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, Mesdames et Messieurs les jurés pourris d'office, public chéri, mon amour. Ex femina, voici la femme. À ne pas confondre avec ex homo, voici ma tante. Qui es-tu, femme, ma sœur ? La femme remonte à la plus haute antiquité, disait Alexandre Vialat. Et je le répète une fois de plus à l'intention des étudiants en lettres qui nous écoutent par milliers et qui commencent à savoir lire dès l'âge du permis de conduire. On peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture. Moi-même, je n'ai pas mon permis de conduire, et bien ça ne m'a jamais empêché de prendre l'autobus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas capable, jeunes gens, de vous priver d'un seul épisode de Dallas pour lire un chapitre des chroniques de Vialat, dites-vous bien que ça ne vous empêchera pas de mourir d'un cancer un jour ou l'autre. Et puis quoi, qu'importe la culture. Quand il a écrit Hamlet, Molière avait-il lu Rostand ? Non ! Voici la femme. La femme est beaucoup plus que ce mammifère inférieur qu'on nous décrit dans l'éloge phallocratique. La femme est l'égale du cheval. Et de même qu'il ne peut pas vivre sans cheval, l'homme ne peut pas vivre sans femme. Comme la femme, le cheval permet à l'homme de s'accrocher derrière pour labourer jusqu'au fond du sillon. Oui, non, la femme de semer sa graine. Observons deux papillons. Pouf, pouf. Observons une femme. Si nous la coupons dans le sens de la longueur, que voyons-nous ? Nous voyons que la femme se compose de 70% d'eau et de 30% de viandes rouges diverses qui sont le siège de l'amour. La femme a-t-elle une âme ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question avec certitude. Tout ce qu'on peut dire avec une marge d'erreur infime, c'est que la nuit sera fraîche, mais à mon humble avis, c'est sans rapport avec le problème de l'existence de l'âme chez la femme. Et d'abord, qu'est-ce que l'âme ? Selon Jacques Lacan et mon coiffeur, l'âme est un composé nébulo-gazeux voisin du prout. C'est toi qui m'influences, Josiane. Sigmund Freud, pour sa part, affirme dans l'édition 1896 de l'Annuaire des Refoulés que l'âme pèse 21 grammes, ce qui exclut évidemment la restitution de notre âme à Dieu par les PET, avec un timbre normal, même à grande vitesse. Toute surcharge au-dessus de 20 grammes étant taxée aux frais du destinataire, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi, au moment de votre agonie, mesdames et messieurs, je vous conseille, mes frères, de vous coller deux timbres à l'âme, afin de faire bonne impression à l'heure cruciale entre toutes de votre comparution devant les pieds nickelés de la Sainte Trinité. La vivisection de la femme ne nous permet pas de distinguer clairement la présence de l'âme. Que voyons-nous exactement ? Un foie, deux reins, trois raisons d'avoir une âme, certes. Mais je vois venir l'objection. Vous allez me dire, le ragondin musqué des marais poitevins, lui aussi a un foie et deux reins. Mais a-t-il une âme pour autant ? Non, il boit contre Exéville, et voilà.
pardon.
Pas de publicité, monsieur le procureur.
En fait, Altesse, mesdames et messieurs, chère madame Balasco, je dis Altesse en hommage au roi de la défense passive, matérialisé ici sous les traits fripés de la...
Ta gueule.
De la triste olive noire qui est présentement occupée à prendre avec discrétion sa température. Avec le thermomètre à mercure en queue de morue, que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquet fado. Oui, Altesse, mesdames et messieurs, en l'état actuel de nos connaissances, rien ne permet de confirmer la présence d'une âme chez la femme. Pourtant, de même qu'il ne peut pas vivre sans marché noir, l'homme ne peut pas vivre sans femme. Car je vous le demande, vous trouvez que c'est une vie normale pour un homme de ne baiser que le fisc? Alors que les femmes des percepteurs, exhibant à chaque coin de rue leur arrogant derrière que le rond de cuir délaisse, hurlent à l'amour en attendant désespérément la main virile qui viendra leur nationaliser la libido à coups de zigounette dans la fonction publique. Avec effet rétroactif en données corrigées des variations saisonnières. Oui, de même qu'il ne peut pas vivre sans oxygène, l'homme ne peut pas vivre sans femme. L'oxygène permet à l'homme de respirer un coup.
Monsieur le procureur.
La femme permet à l'homme de tirer un trait sur son adolescence pour fonder enfin une famille d'où naîtront bientôt les merveilleux enfants du monde qui grandiront dans la joie avant de périr sous les bombes thermonucléaires dans une dizaine d'années au plus tard. Oui, en effet, chère Josiane, si tout va bien, si le temps le permet, la Troisième Guerre mondiale devrait normalement éclater avant 1989, 91 à la limite. La plupart des voyantes extralucides, ainsi que Madame Soleil et Yves Montand, sont absolument d'accord sur ce point. Quant à Nostradamus, qui avait oublié d'être con puisqu'il croyait en Dieu, il situe précisément la fin du monde atomique le 14 juillet 1989. Comme le dit clairement le paragraphe 13 du chapitre 5 de son guide Goemio de la mort pas chère, là je cite Nostradamus, excusez-moi, le français est un peu archaïque, c'est en main. 200 années après qu'éclatoit en royaume François la honteuse révolte où triomphoit la populace, il y a 14 juillet 89, les sauvages hordes rouges de l'Est glacé vomiront le feu du ciel sur le grand mol occidental. Le grand mol occidental, c'est évidemment une allusion de Nostradamus à la mollesse décadente des hommes de l'Occident, avachis par la bagnole, le déclin du patriotisme, l'athéisme, les congés payés, l'abolition de la peine de mort et les sous-vêtements en dermodactyle babar qui suppriment le goût de l'effort tout en comprimant abusivement la zigounette. Lors, je reprends le texte de Nostradamus, l'homme de guerre brandira le noyau fissuré du grand champignon fumeux, c'est clair. Et tirera la chevillette et chairera la bobinette. Dans ce brasier d'apocalypse, poursuit Nostradamus, la terre s'ouvrira dans d'épouvantables craquements, les océans déchaînés recouvriront les terres en ruines où nulle âme ne survivra et le périphérique ouest sera fermé à la circulation entre la porte de Vincennes et le pont de Charenton. Donc la femme est importante, puisque c'est elle qui assurera la continuité de l'espèce jusqu'à la fin du monde. D'autre part, si l'on examine la femme d'un point de vue purement ludique, que constatons-nous ? Eh bien, nous constatons que la femme est souvent, pour l'homme, un agréable compagnon de jeu. On cite notamment le cas reconnu médicalement de nombreux hommes qui ne peuvent connaître de plaisir sexuel qu'avec des femmes. Comme ce gardien de phare Pimpolet, Yvon Le Poignet, qui ne pouvait pas rester plus de 6 mois d'affilée à son poste. Malgré la conscience professionnelle avec laquelle il astiquait son phare entre deux naufrages, il lui fallait absolument revenir périodiquement à terre pour se livrer sur la personne de son épouse à des gesticulations spasmodiques dont la seule évocation soulève le cœur des reins qui bat sous la robe austère de la,
oui, 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 oui.
De la justice. Donc, Josiane Balasco est coupable. La peine de mort étant toujours supprimée cette semaine, je suggère une peine d'incarcération pendant 8 jours dans l'ascenseur de la tour Montparnasse avec diffusion alternative ininterrompue de l'Adagio d'Albinoni et des Feuilles mortes par Yves Montand.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur le procureur.
Merci beaucoup.
La parole... La parole est à la défense. Maître Rego, nous vous écoutons.
Amis de la justice et des actrices, bonjour, de quoi est-ce qu'on accuse-t-on ma cliente? Ma cliente. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire remarquer à monsieur le président, ainsi qu'à monsieur l'enfoiré de procureur, et à messieurs les jurés qui scurent le nez au premier rang, en déposant discrètement leur loup sous leur siège.
Écoutez, c'est leur dure pas, maître Rego.
Je vous ai laissé parler tout
oui,
à l'heure.
Oui, et puis ça va continuer.
Ne m'interrompez pas. Et donc, je voulais dire que ma cliente Balasco est enceinte, provisoirement. Et ce qu'il voit là-dedans, si j'ose dire, une manœuvre perfide pour séduire Isgur. Elle est enceinte parce qu'elle veut être mère, c'est tout. Et en tant que mère, elle a le droit au respect de cette cour, ainsi qu'au supplément familial prévu par nos lois, à savoir 15 francs par mois.
C'est vrai, ça.
En outre, je la défendrai jusqu'au bout de mes forces et d'une manière tout à fait désintéressée. De sa génération, c'est mon actrice préférée. Et je suis objectif parce que j'ai joué dans tous ses films et toutes ses pièces. Et croyez-moi, une artiste qui a du lanta ne prend pas n'importe quel Raymond pour jouer avec elle.
Et qui a du quoi ?
Je vais y arriver, président.
Ah, bon.
Excuse-moi, Claude, mais il t'a pas interrompu, alors ne l'interromps pas.
Le lanta, ami inculte, veut dire talent en verlan. Et Raymond, c'est un nouveau terme qui veut dire ringard. On a changé de code, comme ça, il n'y a plus que les Raymonds qui disent ringard. C'est pour qu'on les repère plus facilement. Le langage étant un code, il faut le changer régulièrement. Sinon, tous les Raymonds peuvent avoir l'air dans le coup sans se faire échi. Échi, ami inculte. C'est encore du l'envers. On ne dit plus Verlan, c'est Raymond. Donc, se faire échier, ami de l'envers, vous m'avez pris con. Non, c'est parce que depuis une semaine, j'apprends à parler Pifos. Il y a un petit manuel de Pifos qui vient de sortir dans le dernier Pif Gadget, journal des mômes qui veulent pas se faire échier. Alors, le Pifos, d'après eux, c'est un mélange de javanais, de verlan et d'argot. Et comme l'indique son nom, Pifos, ça consiste en plus à ajouter le suffixe « os » à la fin de certains mots. Un exemple « os ». L'enfarose de procuros.
Rien compris.
Proche des, n'entrave d'alque au pifos. Et ne acquirez pas. Je veux dire, ne ricanez pas. Si l'appel du 18 juin avait été fait en pifos, il y aurait eu beaucoup plus de gens qui l'auraient compris. 7 francs, 16 francs. Ici Drélon, bonjour à vous. Les 7 francs parlent aux 16 francs et c'est pas cher. Vivos la France, ça va! C'est sûr qu'on aurait viré les beaux choses. On a une heure de quart. Bande de mieffus. Ça m'agace rien que d'y penser. Allez, laisse béton. Ce dictionnaire que Pif Gadget a intitulé Le français bahut est une mine d'or. Maintenant, ma fille qui a 2 ans va me comprendre. C'est très important pour nous. Amis parents, et là je m'adresse à tous les amis parents, d'être à la hauteur de nos enfants. N'oubliez pas que les enfants ont une vision du monde qui part d'en bas vers le haut. Quand ils ont affaire à un craignos, c'est toujours un grand craignos. Et ça change tout. Craignos a mis un culte d'après le Pifos. C'est quelqu'un qui craint Max, qui est béné, lourdingue, manque de finesse, bref, quelqu'un à éviter. Exemplos, le procureur, c'est craignos. Tandis que Josiane est Balascos. Ou encore, le Crotal est vachement Raymond. Je répète.
Le Cantal est vachement Raymond. Alors, le Cantal a mis un cultos, par comparaison avec le serpent venimeux, désigne le proviseur ou le principal du lycée ou du CES. Pichos ? Bon, ça baigne. Je vois que vous êtes chez Bran. Allez, je vous laisse galérer. Après-demain, Interos, à Seffranterrain, la radio qui flash à mort. Avant de vous quitter, bande de Raymond, je voudrais vous signaler que ça y est, j'ai reçu quelques lettres au courrier des imbéciles. Ça m'a fait plaisir. En voici une de Madame Jacqueline Ehlers, de Paris 13e, qui m'écrit à propos de l'émission consacrée à Mireille Darc, l'heure de vérité. Je ne comprends pas pourquoi elle a amené M. Giscard d'Estaing. Et il ne faut pas faire de politique dans une émission de variété. Ça commence à bien faire. Salut l'imbécile. Eh bien, Madame Ehlers, l'avenue de M. Giscard n'était pas prévue. Hélas, le célèbre comédien Alain Delon est tant malade, M. Giscard a accepté gentiment de le remplacer. Je profite de cette lettre pour vous rappeler, ami imbécile, que vous pouvez continuer à m'écrire. Attention, n'oubliez pas le timbre. Je vous en supplie, mettez un timbre. Ah oui, je vous en supplie, mettez un timbre. Il y avait deux lettres qui n'avaient pas de timbre, on les a refusées. On n'a pas les moyens. Donc n'oubliez pas, mettez un timbre et un seul, ça suffit. Allez, amis de la cour, à demain si tout va bien.
Merci, maître Rigaud.
De rien, je suis payé pour ça.
La cour, après avoir écouté le jury, après en avoir délibéré, considérant que trois des jurés se prononcent pour la culpabilité de Josiane Balasco, la condamne aux travaux forcés. L'audience est levée.
1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans son journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Avec ou pas d'innocents, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Il y a vraiment rien de pire. Les flagrants délits.
C'était le NRV France Inter plus de Josiane Balasco au tribunal des flagrants délires. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, dans le NRV La Suite, c'est Jean-Yann qui se présentera à la barre. Je vous souhaite le bonsoir.